Chaque samedi à midi, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Concordance des temps vous propose, en dialogue avec les spécialistes les plus avisés, l'éclairage que les précédents historiques peuvent jeter sur notre temps et qui trouve dans l'actualité des résonances souvent inattendues.
Deux siècles après, l'ombre du Libertador continue de planer. Simon Bolivar, encore et toujours, quel héritage, alors que la Bolivie vient d'expulser le premier président indien qu'on ait jamais connu, avec Jean-Michel Blanquer, ministre, qui intervient ici pour sa fine connaissance de l'Amérique latine, ce samedi dès 10h et sur franceculture.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le nouveau plan d'urgence du gouvernement pour l'hôpital public sera annoncé par le Premier ministre la semaine prochaine. Nous devons assurer à court terme un investissement plus fort et plus massif. Voilà ce qu'a indiqué le président de la République Emmanuel Macron hier, sans toutefois avancer de budget pour l'hôpital public. L'exécutif souhaite surtout calmer la colère des personnels. Infirmiers, médecins, doyens, internes, ils étaient des milliers dans les rues de Paris, Besançon ou Toulouse hier pour dénoncer un manque de moyens et d'effectifs. Des annonces dans une semaine donc, et cela a provoqué la colère des sénateurs. Se sentant court-circuités, ils ont rejeté hier le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2020 qu'ils étaient en train d'examiner. Ils disent ne pas comprendre pourquoi ces futures mesures pour les hôpitaux n'ont pas été incluses dans le projet de loi qui leur a été soumis. Thierry Breton passe l'épreuve de l'audition au Parlement européen. Le nouveau candidat de la France à la Commission européenne a été confirmé hier par les eurodéputés, malgré les risques de conflits d'intérêts qui ont été soulevés par certains groupes politiques. Son portefeuille comprendra la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. En revanche, pour le candidat hongrois, il va falloir repasser. Il a une semaine pour répondre à des questions écrites de la part des parlementaires, avec une nouvelle audition ensuite. C'est un revers pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui l'avait proposé. Hong Kong est paralysé depuis plus de 4 jours maintenant. Les écoles, les universités de la mégalopole restent fermées. Des rames de métro également vandalisées. Des axes routiers sont bloqués par des barricades de manifestants pro-démocratie. Hier, le président chinois Xi Jinping a prévenu « Ces violences menacent de remettre en cause le principe même d'autonomie de Hong Kong », dit-il. Des manifestations aussi en Irak. 4 personnes ont été tuées hier encore à Bagdad par des tirs de grenades lacrymogènes. Plus de 300 personnes sont mortes en un mois et demi. La répression continue donc et des personnes disparaissent ou sont menacées. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30 avec le reportage de notre correspondante à Bagdad.
Hashtag quand le témoignage prend la parole.
Toutes les semaines, réagissez sur les réseaux sociaux sur ce qui change votre vie. Renoncer à l'avion pour la planète, sauvegarder le patrimoine, vivre le handicap au quotidien, témoigner et compléter des interviews engagées.
Hashtag, c'est dès lundi sur les réseaux sociaux, le vendredi dans les matins de France Culture à 7h24 et sur franceculture.fr.
Les éditions Radio France présentent le livre d'Éric Orsenna, Beaumarchais, un aventurier de la liberté.
Que dire de sa vie ? Elle est la vie même, un mouvement perpétuel, un feuilleton jamais ralenti, une folle journée pour reprendre le premier titre de son mariage de Figaro.
Plongé dans l'itinéraire hors du commun de cet écrivain qui incarne le XVIIIe siècle et s'autorise toutes les libertés. Beaumarchais, un aventurier de la liberté, d'Éric Orsenna, un livre et un livre audio France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture à la veille du week-end. Nous parlons bande dessinée avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, l'actualité de la pop culture très tôt le matin à la radio. ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur l'application de Radio France par exemple, ou encore en quelques clics à partir de franceculture.fr. Corinne Amar et Cyril Marchand à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, avec à la prise de son ce matin Laetitia Delgado. Tous les vendredis, c'est l'actu BD et aujourd'hui, on va parler du retour de Corto Maltese dans une nouvelle aventure, Le jour de Taroan. Les deux auteurs qui depuis 4 ans ont la tâche de faire revivre le héros en papier mythique créé par le non moins mythique Hugo Pratt, à savoir Juan Diaz Canales au scénario et Ruben Pellejero au dessin, sont mes invités aujourd'hui. Et en deuxième partie, et depuis Lyon, en grand admirateur de Corto et enfin connaisseur de l'œuvre de Pratt, le philosophe Tristian Garcia nous livrera ses premières impressions sur ce troisième Corto Maltese réalisé par le tandem espagnol. Le jour de Taroan, édité par Casterman, est en librairie depuis cette semaine.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Hola, bonjour Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous continuez donc à voyager dans le monde de Corto Maltese après l'Alaska dans Sous le soleil de minuit. Après les tropiques dans Equatoria, on revient là où tout a commencé, c'est-à-dire votre troisième corto d'après Pratt, Le jour de Taroan. On revient aux sources, c'est-à-dire sous les attitudes du Pacifique. Ceux qui connaissent la vie du marin pirate ont tous en tête sa première apparition, en naufragé, attaché à une croix flottante entre les îles Fidji et Marshall. C'était bien sûr dans La balade de la mer salée, deux ailes à balade bien sûr. Autant dire un des chefs-d'œuvre du 9e art qui révéla un grand auteur, Hugo Pratt. Alors, votre album raconte les quelques semaines d'avant La balade de la mer salée. Le jour de Taroan s'arrête d'ailleurs sur l'image de Corto Maltese jeté à la mer. C'est aussi la couverture de votre album. On savait depuis quelque temps que ça allait être un préquel. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce une manière de marquer les 50 ans de cet album révolutionnaire devenu un grand classique? Car c'est effectivement bien en 1969 qu'Hugo Pratt achève la publication de La balade de la mer salée. Ou est-ce pour d'autres raisons? Ruben Pellejero.
Tout commence parce que j'ai pensé un jour que pourquoi ne parler pas de l'avant de la balade de Marsalé, parce que il y a une case qui prend dessiner, que Corto raconte un peu pourquoi il se trouve dans la mer, perdu, crucifié dans les voies, non? J'ai parlé avec Juan et je lui ai dit comme ça, pourquoi nous pouvons faire une chose que je pense que beaucoup de lecteurs on peut imaginer, on peut dire qu'est-ce qui passe avant de la première histoire qu'il y a le personnage. Et parce que j'ai trouvé très, très intéressant de faire quelque chose avant. Et Juan, il est d'accord, il trouvait une bonne idée pour qu'en même temps, changeons beaucoup d'endroits où passe le dernier album que nous avons fait. Et c'est comme ça, d'une manière facile.
Quand vous dites d'une manière facile, c'est plus facile d'imaginer Corto Maltese avant son apparition dans La balade de la mer salée plutôt que d'imaginer une suite à ses aventures et donc une suite à l'œuvre d'Hugo Pratt. Juan Diaz Canales.
C'est une très bonne idée, parce que bien avant qu'il soit auteur, nous sommes aussi des lecteurs de Corto. Donc c'est vrai ce que dit Ruben, on a la curiosité, comme la plupart des lecteurs, de savoir pourquoi il est arrivé à ce point-là d'être abandonné au milieu de l'océan Pacifique. Et puis il y a déjà un univers établi, tout ça qui se passe dans les îles pendant le récit de La balade de la mer salée, avec beaucoup de personnages très riches, très, très mystérieux, qui sont un cadeau pour un raconteur. Donc on a profité bien la présence de Rasputin, bien sûr, mais aussi de Dumois, de Cragnon et beaucoup d'autres personnages qu'on connaîtrait depuis la balade. Donc bon, la vraie difficulté, c'est plutôt savoir comment il est arrivé là et faire un structure, parce qu'en fait c'est pas quelques semaines, c'est la structure du récit des jours de Taroan, c'est plutôt un bon année, c'est
il y a des saisons effectivement, ouais.
On a choisi une structure circulaire du récit qui commence les jours de Tarawéen, que c'est les jours de Toussaint et tout ça.
Aujourd'hui, les jeunes disent Halloween et voilà, ils ont réglé tout
Halloween,
ça.
Halloween, c'est ça. Et qui finit exactement un année après.
Et donc, juste avant la balade de la mer Salée.
Oui, c'est ça. Et parce qu'il nous a paru intéressant d'avoir un institut circulaire pour retrouver un peu la toute première aventure de Corto. Ça nous a dit que c'est une bonne idée.
Le réveil culturel.
Dire à mon connaissance, il n'y a que le seul, la référence que Corto fait dans la balade et que c'est en fait une référence très floue sur une espèce d'affaire qu'il a eue avec une sœur d'une personne qui l'accompagne dans les bateaux et tout ça. Et après ça, il n'y a des indices ni de documentation de Prague qui a développé plus l'histoire de...
Donc tout était en friche, donc vous pouviez effectivement...
Il y a toujours des références. D'abord, dans la balade de la mer Salée, il parle qu'il travaille, par exemple, pour les moines depuis quelques temps. Il connaît déjà Rasputin. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà sur l'histoire qui se passe un peu avant, mais sont pas vraiment en contrainte. C'est plutôt des indications pour situer les personnages et les métiers qu'il avait à cette époque-là, que c'est les métiers des pirates. Mmh. Et voilà, c'est tout. Le reste reste un peu flou et on a profité ces vides narratifs pour les remplir avec notre idée à nous. Et c'est pour ça que...
Avec votre idée à vous, votre imaginaire, et avec, je suppose, l'accord des ayants droit, comment on fait un Corto Maltese? Il n'y a pas un droit de regard des ayants droit de l'éditeur? Corto Maltese n'est pas une bande dessinée comme une autre, hein. C'est à la fois un enjeu commercial, c'est aussi le personnage d'un des plus grands auteurs de la bande dessinée.
Mais tout à fait, mais quand Patricia Zanotti, que c'est l'ayant droit, la personne qui garde les droits de Bob Pratt, m'a proposé d'écrire les scénarios de tout premier album, elle déjà nous a laissé la liberté totale de raconter l'histoire qu'on veut. En fait, Patricia, elle a toujours dit que Bob Pratt travaillait toujours dans la... Et en plus, il a lutté pour la liberté créative. Donc, c'est pas question de nous dire, de nous guider dans un sens créatif. Donc, on a travaillé dans la complète liberté. Il y a toujours des choses qu'on peut pas faire parce que du moment qu'on a choisi respecter la chronologie du personnage, on doit raconter des histoires qui sont pas racontées déjà. Ça veut dire qu'il y a des morceaux de la chronologie qui sont déjà racontés, tout ce qui se passe pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale et tout ça, c'est déjà raconté, on peut pas toucher ça. Mais par contre, il y a d'autres espaces blancs dans la chronologie du personnage qu'on peut développer et c'est ça qu'on fait.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Pour ce troisième album que vous signez, et donc ce sont aussi les premiers albums de Corto Maltese sans Hugo Pratt, Le jour de Tarawin par exemple, est-ce que vous êtes plongé, vous deux, Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero, dans la période de ce début du XXe siècle, ou est-ce que quand même vous êtes rattrapé par l'actualité? Parce que quand on lit cet album de Corto Maltese, on voit bien qu'on est confronté à des enjeux qui sont toujours contemporains, ou plus que jamais contemporains. Le discours sur le colonialisme, par exemple, très présent.
Malheureusement.
Bah oui. sur le pillage des forêts, présentées comme des crimes écologiques. Là aussi, on sent bien les temps présents dans votre travail, sur la révolte des opprimés, les indigènes, mais surtout les femmes. Mmh. Et puis bien sûr, sur la place de la religion, les sectes, la raison d'État. Tout ça, on a l'impression que c'est du Corto Maltese remis à son époque, mais nourri par les temps présents, non?
Oui et non, ça veut dire, ce sont des sujets qui nous intéressent, ce sont des sujets encore d'actualité, malgré tout, mais la limite pour nous, je crois que c'est de rester, de faire face à ces sujets d'une façon honnête, pour ne tomber pas dans les anachronismes, ça veut dire, Corto n'est pas du tout un héros écolo, ça c'est pas question, mais à mon avis le problème des indigènes c'était déjà un problème qui a beaucoup à voir avec toute la surexploitation des ressources naturelles et tout ça, et c'est pour ça que ça tombait bien parler de ça. Et pareil avec les thèmes de femmes par exemple, parce que dans l'île il y avait beaucoup des sociétés qui étaient encore en matriarcal avec un présent de la femme importante et tout ça, donc ça c'est un peu le limite. Si ça colle bien avec une histoire qui peut se dérouler dans cet âme-là, si sans tomber dans l'anachronisme, on attaque.
Oui, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, Ruben Pellejero.
Pour mon côté, je pense que Juan Diaz fait son métier, évidemment, il a les choses qu'il voulait raconter. Et c'est son papier dans l'album. Et le mien, c'est de raconter la meilleure manière possible. Je m'occupe, évidemment, plus de dessin que plus de l'histoire. Mais cette manière de travailler parmi les deux, c'est, pour un côté, ne c'est pas nouveau pendant un scénariste et un dessinateur. Mais cette liberté qu'il a parlé, c'est une liberté à deux, que nous sommes bien ensemblés pour faire.
Alors, puisque vous êtes le premier à recevoir les informations de Corto Maltese, en quoi il est différent dans cette aventure, le jour de Tarawin? Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur Corto Maltese?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à niveau littéraire. Juan, il a parlé déjà. Il raconte dans l'univers prattien des choses qui sont vraiment actuelles encore. On peut donner une d'autre évolution du personnage en même temps. Si bien à son personnalité propre, Corto Maltese, peut-être que l'histoire qu'il raconte, il y a un côté peut-être différent. Mm-hmm. Parce que c'est que.
Vous le trouvez un peu plus.
Tout disent déjà. Ouais. Il y a des manières de raconter les histoires dans l'histoire, qu'il y a plusieurs histoires dans la même histoire, que peut-être c'est différent. Qu'est-ce que fait Hugo Pratt? Je pense que c'est ce côté d'actualité, ne peut dire modernité, mais c'est l'actualité qui fait différent l'histoire qui raconte Juan. Et pour mon côté, je pense que c'est le même. Je le donne que c'est mon travail dans la série, c'est de donner un côté plus actuel, mais en même temps, sans m'éloigner beaucoup de la sensation artistique ou de recevoir l'aventure comme qu'ont fait les maîtres. Non.
Par exemple, Corto Maltese est plus sexy que jamais, hein, sous votre plume. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une ambiguïté sexuelle sur Corto Maltese, la première fois d'ailleurs, dans le récit de Juan Diaz Canales?
Je ne pense que oui. Je pense qu'encore, Corto Maltese, c'est un personnage très attractif, très séduisant. Et pour mon côté, je voulais que ça, c'est très évident, mais
pas, il est assez ambigu avec les femmes dans cette aventure, on est d'accord.
Il allait directement à jouer un papier de séducteur. Je pense que c'est plus, comment on dit, il y a un côté, on peut dire, sensuel du personnage, mais pas d'une manière très évidente, je ne sais pas.
Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero qui ont repris Corto Maltese sont mes invités ce matin à l'occasion de la sortie de leur troisième Corto Maltese, Le jour de Tarouane, et en direct de Lyon, le philosophe Tristian Garcia est avec nous. Bonjour Tristian Garcia.
Bonjour.
Alors, vous l'avez lu, on sait à quel point vous êtes un grand fan de Corto Maltese, un connaisseur aussi de l'œuvre d'Hugo Pratt. Comment vous avez lu cette troisième aventure du tandem Canales et Pellejero, c'est-à-dire Le jour de Tarouane?
C'est un très bel album, c'est un album qui doit respecter un certain nombre de contraintes hein, dont on a déjà parlé, C'est normal, il y a forcément un cahier des charges, on retrouve, puisque vous parliez du caractère de séducteur de Corto, on retrouve aussi le personnage d'une femme désœuvrée, séduite par Corto. Il y a des thèmes politiques, la domination coloniale qu'on retrouvait dans d'autres histoires de Corto qui se passaient au Brésil par exemple, mais il y a aussi des moments de liberté, presque de dérive, aussi de liberté graphique. Je pense à des très belles planches qui utilisent des ombres découpées qui rappellent l'influence chez Hugo Pratt de Milton Caniff, par exemple, du grand dessinateur américain. Et on retrouve la liberté graphique comme ça, qui est forte dans cet album et qui lui donne aussi une couleur moins contrainte, poétique et plus de temps. C'est un album aussi, me semble-t-il, moins dense que les précédents en narration, plus contemplatif parfois, et que j'ai trouvé très beau.
Corto Maltese est dans son élément là où les frontières ne sont pas nettes, là où les appartenances nationales, ethniques, politiques et confessionnelles se chevauchent dans des zones de troubles identitaires. C'est un homme des Balkans, du Caucase, du Kurdistan, des ports, des cités frontalières de Venise ou de Trieste, des archipels et des interzones. C'est ce que vous écrivez à propos de Corto Maltese, Tristian Garcia. Si je vous posais la question, comment vous ressentez ce personnage? Comment vous le présentez? C'est plutôt un idéaliste cynique, un homme d'un ancien monde, un homme qui vit toutes ses contradictions dans une sorte de détachement ou d'harmonie. Comment le définir, Corto Maltese? Comment vous, le philosophe, vous pouvez le définir?
D'abord, c'est un personnage, et c'est peut-être pratique pour le reprendre, C'est un personnage qui n'a jamais été actuel. C'est d'emblée un personnage nostalgique, qui est nostalgique d'une période de l'histoire qui est révolue au moment où Pratt l'invente. Pratt est déjà dans la modernité des années 70, puis des années 80, et Cortot représente un personnage qui est de toute manière, même dans sa biographie, hein, destiné à mourir. Alors il y a plusieurs versions possibles de sa mort imaginée, soit mourir pendant la guerre d'Espagne et mourir avec une sorte de romantisme révolutionnaire, soit de s'éteindre à l'écart du monde dans une île du Pacifique des années plus tard. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est inactuel. Donc il n'a pas à être rendu de nouveau actuel, il n'a pas à être notre contemporain puisqu'il n'a jamais été contemporain. Il n'est pas contemporain du monde.
Néanmoins, comment le définir ?
C'est un personnage. Alors ça, c'est légèrement différent dans la reprise, je trouve. C'est quelque chose qui peut se discuter dans le dernier album, par exemple, à plusieurs reprises. Je pense à des moments où Corto Maltese, par exemple, donne symboliquement à un autre personnage une sorte de leçon en lui disant qu'il faut être juste. Corto, en fait, est un personnage qui sait régulièrement, pas toujours, mais qui sait aussi être désagréable. Il est pas Raspoutine, hein, mais c'est un personnage qui n'incarne pas le bien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a beaucoup marqué dans la bande dessinée européenne. Ça a été un des premiers héros qui ne se présentait pas comme une sorte de scout idéalisé, hein, que ce soit Spirou, Tintin, ou en tout cas tous les grands personnages, surtout franco-belges, qui étaient au service d'une vision, voilà, un petit peu enfantine de la justice, du bien ou de la morale. C'est un personnage qui n'a pas vraiment de morale, qui s'attache simplement à ceux qu'il rencontre, ceux et celles qu'il rencontre. Quand il rencontre quelqu'un, quand il rencontre une cause, parfois, c'est le cas aussi dans cet album, une cause révolutionnaire, une rébellion, il va s'y attacher, mais il s'y attache parce qu'il a rencontré quelqu'un, parce qu'il a rencontré une personne. Pas à cause de la justesse de l'idée. C'est un homme de rencontre, de dérive et de rencontre, qui n'a pas vraiment de morale constituée, qui n'est pas foncièrement bon, qui n'est pas foncièrement juste.
Et qui préfère être plutôt spectateur des conflits, parce que là, il le répète encore dans cette aventure, le jour de Tarouane, je voudrais avoir le point de vue des uns et des autres, mais je ne suis pas obligé de prendre parti. C'est ce qu'il dit, c'est quand même incroyable.
Oui, il y a cette espèce de dégagement toujours du personnage qu'on retrouve là aussi, qui est un personnage qui, alors à moins qu'il ne soit obligé par les événements d'intervenir, de sauver quelqu'un, hein, c'est le cas aussi dans le dernier album, préfère en général se tenir à distance des camps. Il y a des camps dans le monde, il y a des guerres, il y a des conflits, et Corto est l'idéal d'un personnage individualiste, alors teinté de romantisme, qui refuse l'engagement, qui refuse d'être dans un camp, et qui donc, pour cette raison, en général, préfère être observateur du conflit, mais qui, évidemment, toujours par un artifice narratif, se retrouve obligé de prendre un minimum parti.
Espíritu que ponche, llévame. Es mi mente que al silbar te encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí.
Merci Tristan Garcia. Je rappelle que vous venez de sortir une collection de livres théoriques sur le 9e art. Cette collection comporte donc un numéro consacré à Corto Maltese, mais à une autre aventure de Corto Maltese, Les Fables de Venise, par Nicolas Télope. S'il fallait continuer ce travail théorique sur Corto Maltese, vous diriez aujourd'hui qu'il a, comme vous l'avez d'ailleurs écrit pour le premier album du tandem Canales et Pelejero, c'est quelqu'un qui correspond à cette époque, même s'il nous vient de très très loin.
Oui, c'est un personnage qui est à l'aise dans le trouble, qui est mal à l'aise avec les idées claires, qui est mal à l'aise avec les frontières nettes, qui n'est pas à l'aise d'ailleurs, même géographiquement, avec les États-nations, qui est toujours entre deux, sur des frontières. Et de ce point de vue-là, il a une chance de revenir dans le monde actuel. Non, il a une chance de revenir dans un monde trouble où les frontières s'estompent.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Merci Tristan Garcia en duplex de Lyon. Merci aussi à Juan Diaz Canales et Ruben Pelejero d'être venus nous parler de leur troisième Corto Maltese, Le Jour de Tarouane. Je suppose que vous êtes déjà sur le quatrième.
Oui, lentement, mais ça démarre. Oui.
Ça prend combien de temps de réaliser un album de Corto Maltese?
L'idée, c'est de revenir chaque 2 ans. Donc, bon, comme tu as rendu, qu'il y a aussi un travail de promotion et tout ça, pendant lequel c'est compliqué de travailler. Environ un an ou un an et demi, c'est à peu près c'est ça.
Bon courage, merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, témoigner, décrypter. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les Misérables, premier long métrage de Lajli, est un film événement, un film saisissant et différent sur la banlieue. Retrouvez Lajli dans Les Matins ce vendredi.
Le réalisateur du film événement Les Misérables, Lajli dans Les Matins, ce vendredi dès 7h et sur franceculture.fr. Chaque dimanche à 18h10, Soft Power, le magazine média et numérique. Frédéric Martel.
Vous êtes en France, 32 millions à utiliser Google chaque jour et presque aussi nombreux sur Facebook, Instagram ou Twitter. Soft Power vous aide à décrypter cette transition numérique et à comprendre le siècle digital.
Cette semaine dans Soft Power, le CSA dans tous ses états. Réforme audiovisuelle, rapprochement des autorités de régulation, contrôle des plateformes. Invité Roch-Olivier Mestre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dimanche dès 18h10 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Menaces, répression pour contenir les manifestations. Voici ce qu'il se passe en Irak depuis un mois et demi. Les contestataires sont traqués par la police sur ordre du pouvoir. Rencontre avec une manifestante en début de journal. Nous entendrons ensuite Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a assuré hier à Washington, a été rassuré par son homologue américain à Washington hier. Les États-Unis restent bien engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Pourquoi l'université de la Sorbonne a-t-elle changé de lieu pour une conférence prévue sur le terrorisme? Jean-Charles Brizard, intervenant, parle de censure. Nous reviendrons sur la polémique. Et puis nous vous expliquerons pourquoi Éric Ciotti ne brique plus la mairie de Nice face à Christian Estrosi. La guerre au sein du parti Les Républicains n'aura pas lieu. Plus de 330 personnes, pour beaucoup des manifestants, ont été tuées dans les violences qui secouent l'Irak, l'un des pays les plus riches en pétrole au monde, mais aussi l'un des plus corrompus. La contestation contre le pouvoir dure depuis un mois et demi, depuis le 1er octobre dernier. Et pour dissuader les Irakiens de manifester, le pouvoir réprime et menace. La Commission des droits de l'homme dans le pays confirme ainsi l'enlèvement de plusieurs personnes en marge des manifestations. D'autres protestataires disent avoir reçu des menaces, des lettres de menaces, des coups de téléphone inquiétants. Des jeunes femmes sont souvent visées. Notre correspondante Lucille Wasserman a rencontré l'une d'elles.
Rehan Ferraz est une jeune irakienne de 21 ans. Elle est capitaine de l'équipe nationale de basketball féminine en Irak et suit des études de médecine à Bagdad. Des compétences qui l'ont poussée à s'engager en première ligne des manifestations, explique-t-elle, installée dans un restaurant.
Mon rôle principal dans la contestation, c'était de soutenir les manifestants. J'aidais les blessés et je leur apportais des médicaments.
Mais cet engagement n'est pas apprécié de tous en Irak. Après 10 jours passés sur place, elle est finalement rentrée chez elle et a trouvé une lettre de menace accrochée à sa porte.
Sur la lettre, il y avait écrit « Arrête de manifester » avec du sang dessus. Puis quelques jours plus tard, des hommes ont appelé mes collègues pour savoir si j'étais à l'hôpital. Ma famille est très inquiète et ne m'autorise plus à y aller.
Impossible de savoir qui est à l'origine de ces menaces, selon elle.
Je ne sais pas. Il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement dans les manifestations. Alors sûrement eux, ils prennent des photos et identifient les gens sur place.
Comme Réham, de nombreux autres manifestants disent avoir été victimes d'intimidation. Si cette jeune Irakienne dit, elle, ne pas avoir peur, beaucoup ont déjà quitté les rangs des protestataires place Tahrir, par crainte de représailles.
C'était Lucille Wasserman depuis Bagdad pour France Culture. Israël a de nouveau frappé des cibles du djihad islamique ce matin dans la bande de Gaza, fragilisant un peu plus l'accord de cessez-le-feu de la veille. Une réponse en fait aux dizaines de roquettes tirées un peu plus tôt vers Israël. Un mois après l'opération militaire turque lancée dans le nord de la Syrie et l'annonce d'un retrait américain de cette zone, les ministres des Affaires étrangères des pays appartenant à la coalition anti-Daesh se retrouvaient hier à Washington. Les États-Unis ont à cette occasion tenu à rassurer leurs partenaires, affirmant que malgré les déclarations parfois fluctuantes de l'administration Trump, le pays restait engagé dans ce combat contre le groupe État islamique. De quoi rassurer effectivement le ministre français Jean-Yves Le Drian.
Il y avait un trouble et une inquiétude parce que d'une part, il y a eu cette offensive turque dans le nord-est syrien, alors que la Turquie était membre de la coalition et que l'on a appris comme cela. Et puis il y a eu aussi l'annonce du retrait américain de l'ensemble du nord-est syrien. Et donc il fallait clarifier. Il fallait savoir si la coalition continuait ou non et si le combat contre Daesh était fini. Alors que nous savons que ce n'est pas parce que l'implantation géographique est devenue caduque que la capacité de projection, la capacité de conversion idéologique soit terminée. Il y a des risques majeurs de résurgence. Et aujourd'hui, le combat continue, si je peux me permettre cette expression. Je suis rassuré parce qu'il y a eu une vraie cohésion, européenne d'abord, très forte, puis une cohésion globale, et les États-Unis ont repris leurs responsabilités dans cette coalition dont ils assuraient le leadership.
Des propos recueillis par Grégory Phillips. Des milliers de blouses blanches ont défilé dans les rues hier à Paris, Besançon ou Toulouse pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs dans les hôpitaux publics. Emmanuel Macron dit avoir entendu la colère de ces manifestants. Il promet que des décisions fortes seront annoncées la semaine prochaine. Mais cela a agacé les sénateurs qui examinent justement le financement de la sécurité sociale pour l'année 2020. Hier soir, ils ont rejeté le texte dans son ensemble, s'estimant méprisés avec ces futures annonces qui rendront, selon eux, les débat caduque. Y a-t-il eu censure brutale à la Sorbonne ? C'est ce que prétend en tout cas Jean-Charles Brizard, le président du Centre d'analyse du terrorisme, estime que l'annulation d'une conférence internationale sur le terrorisme a été censurée. Elle devait avoir lieu à la Sorbonne à Jussieu, mais le lieu a en fait changé au dernier moment. Il a été changé par la présidence de la Sorbonne Université, Antoine Marette.
Cette conférence devait se dérouler le 7 novembre dernier à Jussieu. Mais une semaine avant, Jean-Charles Brizard est informé par la présidence de Sorbonne Université que l'événement ne peut plus se tenir sur le campus.
Je reçois un appel d'un conseiller de ce président qui m'informe que, au vu des problèmes que peut engendrer cet événement, qui est risqué, qui est dangereux pour la vie des étudiants, etc., le président a décidé abruptement de ne pas accueillir cette conférence. Ce qui est évidemment pour nous incompréhensible, compte tenu des relations qu'on a nouées depuis 6 mois avec l'université. C'est très brutal, c'est une censure pour nous. C'est le caractère brutal de cette décision qui a beaucoup choqué.
Julien Blanc est le directeur de cabinet du président de Sorbonne Université. Il refuse le terme de censure et il invoque des raisons de sécurité.
Cette conférence réunissait des exécutifs, des personnes en responsabilité de la lutte contre le terrorisme, très exposées, qui d'ailleurs étaient accompagnées d'officiers de sécurité. Et donc on a jugé qu'on ne pouvait pas garantir que la conférence se passe correctement. Donc on a tout fait pendant 2 jours, une fois la décision prise, pour trouver un autre lieu avec les organisateurs, l'école militaire, qui était quand même plus adaptée aux questions de lutte contre le terrorisme, qu'une université.
Effectivement, la conférence a bien eu lieu à la date prévue, mais pas dans le lieu prévu. Le président du Centre d'analyse du terrorisme regrette qu'elle n'ait pas pu se tenir dans un cadre universitaire.
Les eurodéputés ont donné leur accord pour que le Français Thierry Breton devienne commissaire européen au marché unique et au numérique. Et cela malgré les risques de conflits d'intérêts qui ont tout de même été soulevés hier par certains groupes politiques au Parlement européen. Lui jette l'éponge pour les municipales de Nice. Éric Ciotti ne brique plus la mairie face à Christian Estrosi. Il n'y aura donc pas de guerre fratricide à Nice entre des élus Les Républicains. Éric Ciotti s'en explique dans une longue lettre aux Niçois publiée sur Facebook, Rosalie Lafarge.
Il évoque pêle-mêle la loyauté à sa famille politique, sa volonté de rassembler à l'heure des difficultés traversées par la droite ou encore son souhait de poursuivre son travail parlementaire. Mais il y a fort à parier qu'un autre argument a fait pencher la balance d'Éric Ciotti. Un sondage Ipsos publié il y a un mois. Ce sondage donne Christian Estrosi largement en tête au municipal à Nice avec 38% des intentions de vote, soit 14 points de plus que le député. Et sans candidature Ciotti, c'est même une victoire dès le premier tour qui semble promise à l'actuel maire de Nice. Y aller, malgré tout, c'était visiblement bien trop risqué. Pour autant, renoncer n'a pas dû être évident. Ce match entre frères ennemis est annoncé depuis des années. Éric Ciotti s'y est préparé longuement. En juillet encore, il traçait les grandes lignes d'une possible future campagne. Il accusait son ancien mentor de solliciter l'investiture En Marche, ne se privait pas de distiller quelques piques dirigées contre Christian Estrosi. La guerre semblait déclarée. Elle n'aura pas lieu, du moins pas cette fois. Est-ce Nicolas Sarkozy qui a poussé Éric Ciotti vers le renoncement? Christian Jacob, le député des Alpes-Maritimes, inscrit en tout cas ces deux rencontres à la longue liste de justifications qu'il adresse aux Niçois, avant d'ajouter « faire la paix nécessite sans doute plus de courage que de livrer la guerre ».
C'était Rosalie Lafarge. Venise devrait connaître un nouveau et périlleux pic de marée haute en fin de matinée tout à l'heure. Trois jours après avoir été dévastée déjà par des inondations records. Elles ont d'ailleurs conduit le gouvernement italien à décréter il y a 24 heures maintenant l'état d'urgence pour catastrophe naturelle dans la cité des Doges. En France, la vague de froid qui s'abat sur le pays a apporté hier soir ses premiers flocons en plaine et de grosses intempéries. Un homme de 63 ans a été tué dans la soirée après la chute d'un arbre en Isère. Dans la vallée du Rhône, 20 000 foyers étaient privés d'électricité hier soir et ce matin, les transports scolaires sont suspendus dans le nord de l'Ardèche. La circulation des trains est interrompue par ailleurs depuis Grenoble sur trois axes différents. Ce matin, seule la Saône-et-Loire reste en vigilance. Neige et verglas, vigilance orange. Le temps sera par ailleurs encore perturbé sur un grand quart sud-est et sur le nord-ouest du pays, entre des pluies et des flocons de neige. Comptez 4 degrés dans la matinée à Paris et à Lille, 6 à Lyon, 7 degrés à Strasbourg, Rennes et Bordeaux et 13 degrés ce matin à Nice. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous avez rejoint pour le journal des idées sur France Culture. À l'approche du week-end, pour ceux d'entre nous, Jacques, qui n'ont pas la chance de pouvoir se mettre au vert, vous nous proposez une petite balade en nature, mi-figue, mi-raisin.
Oui, bon, à condition, Clara, d'éviter la neige, évidemment. Ah oui, la dernière livraison de la revue Carnet de Science publie un dossier sur les pouvoirs de la science en matière d'environnement. Ils sont d'abord évidemment ceux de l'expertise, mais Grégory Fléchet souligne la distance entre celle-ci et l'action publique. À propos du GIEC, il rappelle que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre ne découlent pas directement des rapports scientifiques qu'il publie, mais résultent de longs échanges et de compromis avec les gouvernements, d'où l'intérêt de mobiliser l'opinion pour faire pression sur les politiques. Aujourd'hui, l'expertise scientifique sur le climat s'étend au milieu océanique, longtemps demeuré dans l'angle mort et oublié des négociations internationales, alors même qu'il constitue un maillon essentiel de sa régulation et que 90% de la chaleur résultant de nos émissions de gaz à effet de serre y est stockée. Au-delà du constat, les scientifiques ouvrent des pistes pour des solutions. Dans le GIR du Pacifique Nord, ce continent marin où tourbillonnent les plastique, un projet vise à déployer des barrières flottantes pour en retirer les déchets. Mais elles ne collectent que les gros plastiques de surface et pas les particules plus au fond qui contaminent la chaîne alimentaire. Et la petite quantité récupérée est vite remplacée par les nouveaux déchets. Réduire le CO2 atmosphérique est également au programme des chercheurs. Un projet du CNRS vise ainsi, en favorisant certaines pratiques agricoles, à accroître la séquestration du carbone dans les 40 premiers centimètres de profondeur du sol. Un autre projet à long terme étudie la possibilité de recycler le CO2 pour fabriquer du carburant. Le droit à l'environnement, donc la science et la connaissance dans ce dossier de la revue Carnet de Science. Le droit de l'environnement est également à la manœuvre, même si la notion de préjudice écologique introduite en France dans la loi de 2016 sur la biodiversité, qui est utile pour sanctionner les dommages ponctuels en évaluant par exemple la pollution d'une rivière, paye peine à désigner les responsables s'agissant de problèmes globaux comme la question climatique où sont en cause de multiples facteurs et responsabilités. L'économiste Gaël Giraud dénonce la privatisation du monde et en appelle à la notion de bien commun. Si l'on continue à considérer les océans comme une ressource privée, plus aucun poisson comestible n'y ondoiera d'ici à 2050. Il juge indispensable la réduction des inégalités entre pays. Un Américain émet en moyenne chaque année plus de 15 tonnes de CO2, un Français 5 tonnes et un Tchadien moins de 2 tonnes. Et ce sont les populations les plus défavorisées qui sont les premières victimes du réchauffement. Mais il y a aussi les inégalités à l'intérieur des frontières, car les émissions de CO2 augmentent avec le revenu. Et il estime qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans contrepartie sociale significative, sinon les gouvernements s'exposeront à des mobilisations majeures. Les banques sont également montrées du doigt. D'après Oxfam, pour 1 euro de financement des énergies renouvelables, elles prêtent encore 7 euros aux fossiles. Quoi qu'il en soit, le coût de la protection de la nature reste beaucoup plus faible que celui de sa réhabilitation. C'est pourquoi toutes les contributions insistent sur le rôle de l'opinion publique et sur l'ouverture des imaginaires aux autres formes de vie dont nous dépendons, ainsi qu'aux innombrables interactions entre les êtres vivants, les roches, le sol, les océans, l'atmosphère. C'est le programme que s'est donné la belle revue Relief. Après les pôles, le ciel, la mer ou les rivages, les sommets et les fleuves, sa dernière livraison porte sur les lacs, élément essentiel de la biodiversité. Gilles Boeuf décrit la physiologie et les pathologies de ces riches écosystèmes à la faune abondante et variée, des libellules aux carpes, brochets, cendres, perches, anguilles. La flore typique dessine un paysage de roseaux, nénuphars ou lentilles d'eau. Il y a aussi une culture du lac, illustrée par un habitat spécifique, lacustre, une population qui se dit attachée à l'élément et se définit par rapport à lui, lémanique, baïkalien, voltaïque. Mais si depuis Rousseau, le lac incite à la rêverie, sa nature peut être redoutable. Michel Mébec est allé remonter le temps en Auvergne pour retrouver les traces du phénomène qui a causé, il y a 30 ans, la catastrophe du lac Nyos au Cameroun. Un dégazage massif et mortel avec un jet d'au moins 50 mètres, une trombe lacustre générant éclairs et tonnerres, les eaux rougies par les hydroxydes de fer provenant des profondeurs, des vapeurs lourdes et des fumées toxiques. À l'époque, les spécialistes l'avaient baptisé éruption limnique et considéré comme un phénomène complètement inédit. Mais en étudiant les textes anciens concernant le lac Pavin en Auvergne, le chercheur a compris pourquoi il inspirait le respect et le conseil de sa grand-mère de ne jamais y jeter de pierre. (6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour.
Au sommaire, aujourd'hui, vous revenez sur la procédure de destitution de Donald Trump. Question, les auditions publiques peuvent-elles faire basculer l'opinion ?
Oui, Donald Trump a-t-il invité l'Ukraine à s'immiscer dans les élections américaines ? A-t-il commis un abus de pouvoir ? C'est par ces mots que le parlementaire démocrate Adam Schiff, qui supervise l'enquête, a ouvert mercredi les premières auditions publiques devant la Chambre des représentants. Les Américains ont donc suivi sur leurs écrans les auditions du chargé d'affaires à Kiev, d'un haut responsable du département d'État, de l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne et qui, pour l'instant, confirme une forme de chantage du président américain sur le président ukrainien en juillet dernier. Chantage qu'on peut résumer en ces termes, pour le dire vite. Fais une enquête sur le fils de mon adversaire Joe Biden, puisqu'il a siégé au conseil d'administration d'une entreprise gazière chez toi en Ukraine, et je te verse l'aide militaire prévue, 400 millions de dollars. Bonjour Anne Desine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Vous êtes professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre. Anne Desine, ces auditions publiques, est-ce que le fait déjà de passer d'audition à huis clos à ces auditions télévisées, c'est un signal quelconque de ce que l'impeachment, la procédure de destitution, se fait de plus en plus menaçante pour Donald Trump?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les républicains qui ont crié pendant toutes les semaines de déposition, parce que les dépositions avaient lieu à huis clos, ce qui se fait toujours et ce que faisaient les républicains, ne sont pas satisfaits maintenant que les auditions sont publiques. Alors, est-ce que cela peut changer ? On sait que dans la procédure de Nixon, l'opinion publique avait évolué. Mais de nos jours, les gens sont moins intéressés. Parce qu'en fait, l'Amérique est divisé en deux camps. Donc, ceux qui sont contre Trump, de toute façon, ont déjà leur opinion. Et même chose pour ceux qui le soutiennent avec fidélité. Il paraît qu'il y a simplement 13 millions d'Américains qui auraient regardé les auditions alors qu'elles passionnaient l'Amérique au temps de Nixon. Et ceux qui ont regardé leurs médias, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt à gauche ont regardé CNN et les pro-Trump ont regardé Fox News.
Et vous les avez regardés d'ailleurs, Fox News, vous avez jeté un coup d'œil, Anne Desine, à ces chaînes d'information continue, vous les trouvez de mauvaise foi ou vous les trouvez neutres?
Oui, pardon. La façon dont les chaînes d'information, et en particulier Fox News, peuvent influer sur leurs spectateurs, auditeurs, c'est à la fois dans les talk shows, après, mais aussi pendant les auditions, par les bandeaux que l'on trouve en bas d'écran. Et généralement, leurs bandeaux sont extrêmement partiaux. Et là, je dois dire qu'ils ont été relativement neutres en disant simplement audition de Taylor et Kent. On va voir ce qui va se passer, mais bien sûr, après, le commentaire, c'est reprendre le discours, le récit des Républicains. Et il faut se rappeler que pendant ces auditions, qui sont d'ailleurs intéressantes parce que d'habitude, dans les auditions, chaque membre a droit à 5 minutes. Et c'est très partisan et il n'en sort rien du tout. Là, Adam Schiff, dont vous parliez, donc qui est le président de la commission sur les renseignements en charge de la procédure, a décidé qu'il octroyait 45 minutes, ce qui est long, 45 minutes, pour que le leader démocrate, puis ensuite le républicain, puisse poser des questions aux témoins. Donc on a vraiment des éléments de réponse.
Alors, il y a le débat pour l'instant se polarise et comme vous le dites, se polarise en deux camps très distincts les uns des autres sur une guerre des mots. En fait, pour l'instant, le président américain Donald Trump donc a demandé une faveur au président ukrainien. C'est le mot qu'il a employé pour le prier donc d'enquêter sur le fils de son adversaire politique Joe Biden, alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, venait de lui rappeler les besoins en armes de son pays et la nécessité pour lui de bien recevoir l'aide américaine promise. Donc faveur, les démocrates traduisent par chantage. Qu'en pense la juriste que vous êtes?
Oui, en fait, il y a plusieurs mots. Un président peut être destitué pour trois raisons. Les deux premiers sont difficiles à traduire en français parce qu'on n'a qu'un seul mot. Bribery, qui est la corruption dans le sens de donner un pot de vin, et corruption, la corruption dans un sens un petit peu plus abstrait. Et ensuite, les fameux hauts crimes. Donc, il est clair que ce qui a été fait hier, c'est-à-dire demander cette enquête. Et l'enquête, c'est non seulement sur le fils Biden, mais c'est aussi sur cette théorie du complot de 2016 où ce n'est pas la Russie qui se serait ingérée dans l'élection américaine, mais l'Ukraine. Et d'ailleurs, il y avait un moment des auditions vraiment intéressantes où le républicain Nunes, qui est très partisan, qui s'est déjà déconsidéré à multiples reprises, a posé à l'ambassadeur Taylor une question là-dessus. Et le pauvre ambassadeur, on a vu sa perplexité. C'était tellement tiré par les cheveux qu'il ne comprenait même pas la question. Il a fini par dire qu'il ne savait pas. Donc bref, il y a vraiment deux récits différents. Mais bien sûr, sur le plan juridique, il y a même certains des actes du président qui relèvent du code pénal, qui n'est pas nécessaire pour une destitution. Donc, les éléments sont là. Simplement, est-ce que, par exemple, ce qui va se passer aujourd'hui, nous avons l'audition de l'ancienne ambassadrice, celle qui a été, après une campagne de dénigrement très très désagréable dont elle a parlé dans la déposition, a été littéralement rapatriée manu militari à Washington, donc expulsée de son poste. Enfin, elle est toujours au sein de la diplomatie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, après que les auditions de mercredi nous aient montré à la fois le civisme, et ça c'était frappant le contraste, le civisme, l'élégance des deux diplomates, on peut penser que peut-être aujourd'hui, nous aurons le côté humain, le coût humain de l'attitude du président. Il y a déjà eu le coût humain en termes de vie humaine sacrifiée, parce que les Ukrainiens n'avaient pas accès à l'aide militaire aux 400 milliards de dollars. Mais là, aujourd'hui, peut-être nous aurons le coût humain, c'est-à-dire la façon dont l'administration Trump traite les gens qui travaillent pour elle, et en particulier des diplomates de carrière. Marie Ivanovitch, c'est 33 ans au service des États-Unis, au service de son pays, comme la plupart des diplomates.
Et donc, il s'est opposé, a priori, à ce qui se passait entre les États-Unis et l'Ukraine. Pour le dire vite, encore une fois, c'est très complexe d'entrer dans le détail. Mais dans les grandes lignes, ce qui ressort de ces auditions, c'est qu'au-delà des relations diplomatiques, disons officielles, entre Washington et la capitale ukrainienne, Kiev, il existait une diplomatie parallèle, un réseau parallèle mis en place par l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, avocat personnel de Donald Trump. Mais est-ce que c'est pas le propre de la diplomatie d'avoir des réseaux parallèles?
Alors tout à fait. L'exemple le plus flagrant étant Kissinger qui va en cachette en Chine pour essayer d'instaurer un dialogue entre les États-Unis et la Chine. Mais là, la diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, le président parlaient le même langage et poursuivaient le même objectif. Ce qui est essentiel ici, c'est que cette diplomatie parallèle vise à obtenir cette double enquête sur le présent et sur 2016, alors que l'intérêt diplomatique des États-Unis, c'est de soutenir un allié contre la Russie qui a envahi la Crimée et le Donbass. Donc, ce qui est bien ressorti hier, mais je crains que ça n'ait pas été entendu par les partisans de Trump, c'est le fait que le comportement de Trump et de, alors à la fois le maire de New York et puis celui qu'on appelait les trois amigos, et en particulier l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, le fameux Sanders, qui n'avait aucune raison d'être en charge de l'Ukraine, et qu'on va entendre la semaine prochaine, et là ça risque d'être intéressant, parce que lors des auditions de mercredi, ce qui est ressorti, c'est qu'il semblerait que Sanders, en violation de toutes les règles de sécurité des communications, ait depuis un restaurant téléphoné à Donald Trump pour lui raconter ce qui se passait à Kiev. Et qu'un aide de Taylor, c'est un peu James Bond cette affaire, qu'un aide de Taylor qui était au restaurant ait entendu ce que disait le président, et le président Trump disait « Bon alors on en est où sur l'enquête, sur les Biden ?» Grosso modo, pour le président Trump, le seul intérêt de l'Ukraine, c'est de sortir des choses compromettantes sur les Biden.
Alors Anne Desine, le camp républicain aux États-Unis le reproche constamment à la Chambre des représentants à majorité démocrate d'avoir elle-même mené l'enquête, une enquête à charge donc d'après l'équipe de Donald Trump. C'est toujours ce registre auquel Donald Trump a souvent recours, c'est-à-dire des allusions à peine voilées à un « deep state », un état profond qui lui serait systématiquement malveillant.
Ah oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les républicains. Il était étonnant de voir la ligne des questions du camp républicain. C'était d'abord d'un langage extrêmement grossier. Il y a eu des vilains mots, comme d'habitude, et puis les médias corrompus, etc. Comparé aux diplomates et à leur langage extrêmement châtié. Voilà. mais ils n'essaient absolument pas de défendre le président pour le moment. Leur ligne de conduite, c'est de dire « oui, bon alors peut-être il a fait quelque chose de pas très très bien, mais ça ne vaut pas une destitution ». Et surtout, ce qui est inquiétant, selon les sondages, 42% des Américains estiment que tous les présidents font ce genre de choses, sous-entendu ce genre de choses plus ou moins pas très propres, un petit peu corrompues, etc. Donc il est loin d'avoir une majorité d'Américains qui comprennent ce que nous on comprend, à savoir que c'est vraiment un abus de pouvoir. Il a utilisé les ressources de l'État à des fins personnelles pour sa réélection, mettant en danger la sécurité de l'Ukraine, un allié des États-Unis, mais aussi la sécurité des États-Unis, puisque ça vient à renforcer la Russie, qui devient de plus en plus agressive au plan géopolitique mondial. Donc c'est un vrai problème, mais un problème que ne perçoivent pas un grand nombre d'Américains.
Et en quelques mots pour conclure, la cote de popularité du président, elle, pour l'instant, elle ne semble pas baisser d'un millimètre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que l'opinion publique américaine soit mobilisée pour qu'une procédure d'impeachment arrive à son terme?
Ah bien sûr, elle est essentielle parce que, bon, on peut penser qu'elle sera votée à la Chambre, puisque les démocrates sont majoritaires. Au Sénat, il faut les deux tiers. Donc il faut que 20 sénateurs républicains votent la destitution. Ça ne sera le cas que si dans leurs États, qui pour le moment sont des États rouges, donc des États pro-Trump, à 80, avec des chiffres très élevés, si ces États-là basculent. Et donc, c'est en cela que les auditions sont importantes, et à chaque fois, il faut espérer qu'il y a un élément qui va tout d'un coup faire basculer l'opinion, comme ça avait été le cas en 1974. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là.
Merci beaucoup, Ndezine, d'avoir été avec nous ce matin. Vous venez tout juste de publier un nouveau livre, Les États-Unis et la démocratie, c'est paru chez L'Harmattan. Merci à vous, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Le Bel Été. Robert, Simon et Sophie vivent en Normandie. Nessim va entrer dans leur vie, suivi de Mohamed, Ahmed et Wally, des adolescents que la situation politique de l'Afrique menace. Pierre Creton saisit de manière sensuelle et engagée le quotidien de la petite assemblée où circulent échanges de paroles et libres désirs, le temps d'un bel été. Le Bel Été de Pierre Creton, actuellement au cinéma. Un partenariat France Culture.
Bienvenue sur France Culture si vous venez de nous rejoindre et bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre humeur du jour, une histoire de chat gras et de Miles doublement allégorique.
Oui, c'est rare hein, parce qu'on trouve dans l'actu des histoires simplement allégoriques mais doublement, vraiment, ça n'est pas fréquent. Alors ici, il s'agit d'une histoire de Fat Cats et de Miles, autrement dit de chat gras et de ces points les Miles que les compagnies aériennes accordent à leurs meilleurs clients. Alors le chat gras en question, c'est un vrai chat réellement gras. Il se prénomme Victor et il pèse 10 kilos, hein, j'ai vérifié. Et son maître, Mikhail Galin, explique le New York Times, est bien embêté puisque lorsqu'on a un chat de 10 kilos, figurez-vous qu'on ne peut pas le faire voyager dans la cabine. On doit le faire s'envoler en soute et Victor, le chat, donc Julie, déteste les sous. Du coup, Mikhail, propriétaire du chat, s'est livré à de nombreuses manipulations pour réussir à embarquer ce chat. Il a présenté au comptoir de la compagnie un autre chat, un chat svelte, lequel a obtenu donc son ticket, un ticket de business, puisque Victor est un fat cat, hein, c'est-à-dire comme on dit, vous savez, les fat cats, c'est aussi gros ce patron qui désigne les gros patrons, donc il voyage en first class. Et puis ce chat mince a été remplacé par l'autre chat, le chat gras, et c'est celui-là qui a embarqué dans l'avion. La compagnie aérienne Aeroflot s'est rendu compte du subterfuge, me demandez pas comment, hein, je sais pas si les stewards ou les hôtesses pèsent les chats au moment de l'embarquement, en tout cas, la compagnie a décidé de punir ce passager en supprimant tous ses miles, et il en avait beaucoup, puisque c'était un client important d'Aeroflot. Et cette histoire est finalement une assez bonne manière de s'en prendre à la société du miles. Vous savez, cette société qui donne plus à ceux qui ont déjà tout. Car finalement, on n'a jamais rien vu de plus inégalitaire que le système des miles, Julie. Récompenser ceux qui voyagent déjà beaucoup parce qu'ils ont les moyens de le faire. C'est un peu comme si on réservait les produits gratuits aux milliardaires, les allocations aux plus riches et les places assises aux personnes en bonne santé. La société du miles est le royaume des chagrins. Alors reste à savoir si les chats qui trichent deviendront des chats boutés hors de l'avion, des chats pour lesquels il n'y aura plus de chalut.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et si vous redoutez les films sur la banlieue simplistes et caricaturaux, allez voir Les Misérables de Ladji, un film dense et complexe. Ladji, le réalisateur des Misérables, et Giordano Gederlini, son scénariste, seront dans les matins aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un joyeux réveil.